Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
On dort les uns contre les autres. On vit les uns avec les autres. On se
entendez bien. On est sur CFAQ, il est 18h04 et on reçoit ce soir professeur de droit Jonathan Maillet. Alors on dit Jonathan Maillet et non pas Jonathan Meyer, n'est-ce pas ?
Exactement. Donc,
voilà, Jonathan Maillet qui a 46 ans et qui est donc un des enseignants de la faculté de droit et notamment de cette fameuse filière DESS-DPAE, vous nous en parlerez certainement. Vous avez choisi quelques chansons, évidemment, pour parler de vous. Et justement, allez-y, dites-nous un peu le choix de la première chanson, justement.
Ben, tout d'abord, merci pour l'invitation. On m'a demandé de choisir 5 chansons francophones pour me présenter, parler de moi un peu au-delà de l'enseignant que je suis. Et j'ai décidé d'y aller un peu par thème. Me connaître, c'est connaître les gens de qui je suis proche. Et la première chanson, bien évidemment, j'ai tout de suite pensé à mes parents. Je suis né à La Chute dans les Basses-Laurentides en 1977, d'une mère qui s'appelle Danielle qui a été enseignante et d'un père qui s'appelle également Danielle qui a fait plusieurs métiers, qui a été entre autres maire de la ville pendant 22 ans. Puis un des souvenirs d'enfance que j'ai, c'est une maison chaleureuse, accueillante, où il y avait toujours des invités, la famille. Mes parents étaient un peu les rassembleurs, faisaient à souper. Je pense avoir conservé ça. C'est quelque chose que j'ai apprécié comme enfant et je pense avoir essayé de le reproduire dans ma vie. Et aussi la musique. Donc, quand vous m'avez demandé de trouver des chansons, pour moi, c'était un pur bonheur parce que je me souviens encore de la table tournante chez mes parents. Je me souviens avoir découvert par moi-même de la musique. Je me souviens qu'ils m'ont fait découvrir la musique. Et puis, j'ai choisi une chanson qui me fait beaucoup penser à mes parents parce que dans mon enseignement, j'essaie à ma manière d'essayer d'avoir une influence sur le monde. J'aspire à ce que mes travaux, que ce soit en philosophie au cégep ou ici à la fac de droit à l'université, puissent résonner au-delà des quatre murs de la salle de classe. Puis on a eu une expérience extraordinaire avec le projet de loi sur l'obsolescence programmée là, que mes étudiants ont rédigé en 2019, qui a inspiré le projet de loi qui vient d'être adopté à l'unanimité par l'Assemblée nationale. Donc on est bien fiers de ça. Oui. Mais tout à fait. Mais ça vient de mes parents. Ma mère a toujours voulu changer le monde, ne serait-ce que parce que bien avant l'effervescence du mouvement environnemental, elle animait ce qu'elle appelait un cercle des jeunes naturalistes à son école avec des jeunes de deuxième année. Puis cet appétit-là, elle l'a encore aujourd'hui. Elle a écrit des livres, elle a fait plusieurs choses. Et mon père, justement par sa fonction de maire, par la politique dans laquelle il était impliqué, a toujours eu ce souci-là pour les autres. Mon père a toujours fait passer les autres avant lui, a toujours eu une espèce de préoccupation pour les moins bien nantis, pour les plus démunis. Et donc, ces deux personnes ont contribué à faire de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Puis cette première chanson-là, c'est une chanson que j'ai entendue alors que j'étais très jeune. Et je pense que le message qu'elle porte rejoint un enseignement vraiment important que mes parents m'ont transmis, c'est-à-dire que si nous, on ne se bat pas pour protéger les moins bien nantis dans la société, personne ne va le faire. Donc, c'est une responsabilité qui nous appartient à chacun.
On ne pouvait pas mieux présenter cette magnifique chanson. En tout cas, moi, j'ai découverte parce que je ne la connaissais pas. Et franchement, je l'ai trouvée superbe. Et donc, on va pouvoir l'écouter tout de suite. Paul Pichet qui s'appelle Région 200. Et elle se lance. Voilà. Petit.
Région pesante, c'est souvent qu'elle ne va pas trop pour longtemps. Pauvre région. J'enlève toutes les vis, j'ai posé, je suis sûr que la bâtisse va tomber. Vissé, vissé, vice versa. Tombe, tombe cette bâtisse-là, mais tombe, tombe ce pays-là. On n'est pas maître dans nos maisons, car vous y êtes. charmant mélanger paysan, il était décédé depuis longtemps, pauvre Armand. Je m'envole là pour le parlement, peut-être me revoir mon argent, maudit argent. Vierge, vierge, vierge d'argent, tout ce qu'ils veulent c'est que je fasse un encan, vice et vice versa. Tombe, tombe cette bâtisse-là, tombe, tombe ce pays-là. On n'est pas maître dans nos maisons, car vous y êtes. Sylvie Légaré, ménagère, avait pu faire des petits toute sa vie, pauvre Sylvie. Ou ben tu deviens secrétaire, ou ben tu prends soin de ton mari qu'on lui a dit. Lave, lave ces enfants-là, torche, torche ce plancher-là, torche, torche ce mari-là. Et n'oublie pas que dans ta maison, c'est l'homme qui est maître. Guy la liberté prisonnier, paraît qu'il aurait fait des folies, c'est pas permis. Comme il n'est pas fils de député, ils peuvent bien enfermer toute sa vie, pauvre Tsigui. Pour protéger la société, on va l'empêcher d'être aimé. C'est pour le réhabiliter que sa femme avait le droit de l'embrasser. Mais saute, saute, mon chien savant. Brasse, brasse, brasse tes dents. Pleure, pleure pas trop souvent. Quand tu seras bon et trop bon garçon, tu seras libre. Charmant, Sylvie, Tsigui, rien que changer dans leur vie, toutes les quatre. Chacun de leur côté ont gueulé, maintenant il y a une chose qu'ils ont compris. C'est que chiale, chiale tant que tu voudras, mais quand c'est voilà ce que tu pourras, rêve, rêve tant que tu voudras. Tant qu'on sera seul dans nos maisons, on sera pas maître. Saute, saute, mon chien savant. Brasse, brasse, brasse tes dents. Pleure, pleure pas trop souvent. Mais lave, lave ces enfants-là. Torche, torche ce plancher-là. Torche, torche ce mari-là. Vierge, vierge, vierge d'argent. Tout ce qu'ils veulent, c'est que je fasse un encan. Vice, vice, vice versa. Tombe, tombe cette bâtisse-là. Tombe, tombe ce pays-là. On n'est pas maître dans nos maisons, car vous y êtes.
Ce pays-là, on n'est pas maître dans nos maisons parce que vous y êtes. C'est quoi?
Je pense qu'à l'époque, c'est le Québec. C'est le Québec avec une aspiration indépendantiste. Je pense qu'on n'est toujours pas dans cette maison-là. Mais même si le Québec demeure une province au sein du Canada, même si ce projet-là a été abandonné, je pense que le pouvoir économique aujourd'hui remplace le pouvoir fédéral qui opprimait d'une certaine manière les Canadiens français ou les Québécois à l'époque. Je pense que aujourd'hui, on est probablement encore moins maître dans nos maisons qu'on l'a déjà été parce que l'écart de richesse s'élargit. L'État-providence fait de moins en moins bien son travail. La place du privé dans les services publics est en constante croissance. On a de la difficulté à avoir de bons services publics. Et pour ça, ben, il faut exiger une meilleure répartition de la richesse. Donc, je pense que cette chanson-là est malheureusement peut-être encore plus actuelle aujourd'hui qu'elle ne l'était à la fin des années 70.
C'est le combat de vos parents qu'on retrouve dans vos mots?
C'est le combat de mes parents. C'est le combat de mon père. Ma mère fait un peu le même combat différemment. Mais c'est clairement mon combat aussi en tant que prof d'essayer, parce que si on n'est pas conscient de ce problème-là, et aujourd'hui c'est facile de divertir les jeunes avec les réseaux sociaux, avec tout ce qu'il y a comme potentiel de divertissement, c'est complexe de voir la réalité telle qu'elle est. Alors, je me fais un devoir parce que je peux pas jouer le rôle des citoyens pour les autres. Je peux jouer le mien.
Bien sûr.
Mais je réalise que j'ai peut-être beaucoup plus de pouvoir politique dans une salle de classe que si j'étais élu à l'Assemblée nationale. Mon pouvoir est moins grand dans la mesure où je peux pas affecter des milliers de personnes à la fois, mais j'ai l'impression que les transformations que j'essaie d'opérer chez mes étudiants sont potentiellement plus durables et à moyen long terme peuvent essentiellement avoir un effet plus significatif. En tout cas, c'est ce à quoi j'aspire.
Former les nouvelles générations.
Transmettre. Former les nouvelles générations. Transmettre. C'est un des plus beaux métiers, celui de pédagogue. Quand on transmet des connaissances, ça nous enrichit. Ça m'arrive d'arriver dans la classe avec parfois une énergie qui n'est pas au maximum, mais dès que c'est lancé, quand on aime vraiment ce qu'on fait, moi, mes étudiants me nourrissent énormément. Puis je ne sais pas s'il y en a qui vont être à l'écoute ce soir, mais je les remercie en tout cas de jouer le rôle qu'ils jouent dans ma vie, parce que sans eux, je ne pourrais pas faire le métier qui me comble de bonheur depuis maintenant 20 ans.
C'était une vocation de devenir enseignant?
Clairement.
Dès le départ?
Pour moi, c'est apparu. Je voulais devenir avocat, mais c'est... une des raisons principales pour lesquelles je voulais devenir avocat, c'était de servir la justice. J'avais cette aspiration un peu de défendre la veuve et l'orphelin. Puis aujourd'hui, je réalise que potentiellement qu'on peut avoir une belle carrière d'avocat ou d'avocate et d'arriver à cette finalité-là. À l'époque, ça m'apparaissait peut-être un petit peu plus difficile. Puis j'ai réalisé personnellement que d'enseigner la justice à travers les grandes pensées des philosophes allait potentiellement me permettre de mieux faire ce que j'aspirais à faire.
Est-ce qu'il y a un philosophe en particulier ou un écrivain qui vous a marqué?
Ah, bien sûr, mais il y en a beaucoup. Mais mes deux favoris au niveau philosophique sont Nietzsche et Spinoza.
Pourquoi?
Spinoza, pour sa grande rigueur intellectuelle, lire l'éthique de Spinoza, ça m'a pris 2 ans, si c'est pas plus, pour la lire et la comprendre. Et Spinoza m'a fait réaliser probablement une des choses les plus importantes, c'est-à-dire que l'homme rationnel, l'être humain rationnel, va désirer des choses qui se partagent à l'infini. La connaissance, l'amour, la charité, la justice, la créativité. Si la machine à propagande qui nous amène à être des consommateurs puis être des pions dans la société de consommation aujourd'hui était au service des enseignements de Spinoza, on aspirait à des choses qui se partagent à l'infini. Donc, les causes de conflits, de querelles, de disputes, ultimement, viendraient pratiquement à disparaître. Parce que si j'aspire à connaître davantage, vos connaissances ne me privent de rien. Elles viennent enrichir mes connaissances. Puis en transmettant mes connaissances, je perds rien. Je vais enrichir les vôtres. Mais on a un système qui fait de nous des consommateurs avides d'argent, de pouvoir, de gloire, de célébrité. Et ça, on ne peut pas tous partager ça.
Les phénomènes de YouTubers, etc.
Les influenceurs vont jouer un rôle là-dedans, mais on ne peut pas tous être célèbres en même temps. Si je suis le plus célèbre des influenceurs, c'est parce qu'il y en a qui le sont moins. Donc si j'aspire à devenir le plus célèbre, j'aspire à la chute de quelqu'un. La logique du capitalisme poussée dans son extrême, c'est le monopoly. Si tout le monde veut avoir le plus d'argent possible dans son compte de banque, cet argent-là, il vient de quelque part. Donc, s'il se concentre vers le haut, c'est qu'il y en a moins au niveau de la classe moyenne et au niveau du bas. Donc, Spinoza m'a appris que par l'éducation, on pouvait ultimement comprendre que ce qui va fondamentalement rendre un être humain heureux, ça se partage à l'infini, mais la société prêche le contraire. Et puis Nietzsche, c'est le philosophe du coup de pied dans le derrière.
Mm-hmm.
Aspire à faire de ta vie la plus grande œuvre possible, deviens ce que tu es. Et Ainsi parlait Zarathoustra de Nietzsche, c'est une œuvre que j'entame à peu près à chaque année. Quand arrive le printemps, le mois de mai, moi je suis un lecteur, mais je suis surtout un relecteur. J'ai des classiques dans la vie que je relis régulièrement. Puis Zarathoustra de Nietzsche, c'est à peu près à tous les printemps que je l'ouvre. Des fois, je me rends au tiers, à la moitié. Ouais. À quelques reprises, je l'ai lu au complet. Mais Nietzsche, c'est un mantra de « Est-ce que tu es en train de faire vraiment le plus que tu peux? » Qui n'a jamais été vaincu par sa victoire? C'est fort. Ouais. Ça dit « Soyez pas trop satisfait de vos réalisations parce que c'est un plan pour que vous arrêtiez de vouloir évoluer et grandir. Donc, pour moi, ça, ces deux penseurs-là sont des influences fondamentales dans ma vie. Et c'est clair que dans mes cours, particulièrement au cégep, ben, j'essaie de transmettre cette sagesse-là.
Marcia Baila, Rita Mitsuko, ouais. Pourquoi ce choix?
Mes amis. Je vous ai parlé de mes parents. Maintenant, je vais prendre quelques minutes pour vous parler de mes amis en essayant de commencer le plus loin possible. D'abord, mes amis, mon petit groupe d'amis du secondaire, il y en a deux. Il y en a un qu'on appelle affectueusement les Stiffs. Et ça, c'est des gens avec qui j'ai partagé des super moments à l'école secondaire. On se voit encore, on essaie de se voir une fois par année. Mes amis du hockey, j'ai joué au hockey. Moi, le sport, c'est, je pense qu'on peut apprendre de grandes leçons dans le sport. Moi, ça a été dans le sport d'équipe. Et les gars avec qui j'ai joué au hockey depuis certains, là, ça va jusqu'à l'âge de 7 ans, mais on se voit encore aujourd'hui au moins à une fois par année, si c'est pas plus. On va à la pêche ensemble. Puis on se retrouve, ça fait des mois qu'on s'est pas vu et c'est comme si c'était hier. Donc, ces gens-là occupent une place vraiment importante dans ma vie. Et puis, bien sûr, ben, des amis que je me suis fait à l'université un peu plus tard, Frédéric, Valérie et compagnie. Mon ami Frédéric, c'est un des amis vraiment importants parce que quand j'étais en maîtrise en philosophie, ben, c'est avec lui que j'allais discuter. Je peux plus difficilement discuter de mon mémoire de maîtrise avec ma conjointe à l'époque parce qu'à un moment donné, bon, elle m'écoutait pendant quelques minutes. Elle était polie, elle était gentille. Ça l'intéressait pas autant que mon ami Fred qui habitait juste en haut de chez moi, qui étudiait aussi en philosophie. Donc, avec lui, je pouvais vraiment aller au bout de ce que j'avais envie. Et puis, dernièrement, on a fait une fête. Je vous disais il y a quelques minutes que mes parents m'ont transmis ce désir-là d'être une maison pour mes amis, d'être un rassembleur. Donc, quand on me fait le compliment ou le commentaire que je suis quelqu'un qui rassemble les gens, ça me fait immensément plaisir. Puis Marcia Baila, parce que dans ces fêtes où on rassemble les gens, il y a souvent un moment pour danser et s'éclater. Et pour moi, cette chanson-là...
Mais pourtant, cette chanson, elle est... Parce qu'on aurait pu... Bon, pour célébrer l'amitié, il y a Famille de Goldman, par exemple. Mais parce que Marcia Baila, c'est quand même une chanson dramatique, tragique, sur le cancer, la mort de quelqu'un de très proche, justement. Est-ce que... Mais il y a une signification derrière aussi, quelque chose comme ça?
Dans le rythme. Dans le rythme, parce que je pense qu'il y a toute une beauté. La vie, elle est fragile, elle est précieuse, mais si on peut en parler, si on peut parler du cancer avec le rythme d'Erita Mitsuko, c'est qu'en même temps, on amène une légèreté au grave.
C'est la mort, c'est la vie, d'une certaine manière.
Épicure dit que sans la mort, la vie, on ne pourrait pas réaliser à quel point elle est précieuse. Il faut réaliser que la mort est un cadeau. Le signe de la fin donne la valeur aux heures qu'on passe aujourd'hui.
C'est très nietzschéen comme choix, finalement.
Probablement.
Sûrement. On va écouter cette magnifique chanson, en tout cas, d'Erita Mitsuko. Une chanson de 1986, Marcia Baila.
Est immense quand tu souffres.
Marcia Baila Rita Mitsuko, une chanson qui est sortie en 1985 et qui était un tube. C'est rare d'ailleurs quand les chansons françaises sortent des frontières françaises, mais celle-là avait cartonné vraiment partout en Europe et donc j'ai appris ce soir qu'elle avait aussi cartonné ici au Québec.
Totalement.
Voilà, et effectivement une belle chanson de ce très 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 bon groupe qui était Rita Mitsuko avec Catherine Ringer et Fred Chinchin qui nous a quittés il y a quelques années. Cette chanson, on va passer à une autre qui est la chanson et vous m'avez dit cette chanson c'est les enfants.
Ouais. Voilà,
Bamboula, les trois accords.
Ouais.
Les enfants au-delà des étudiants qui sont plus vraiment des enfants.
Mm-hmm.
Qu'est-ce que c'est les enfants aujourd'hui, en 2023?
Oh, je vais faire attention à ce que je dis, parce que je pense qu'on voit les deux. Je pense qu'on voit des jeunes un peu désabusés, des jeunes qui ont eu la vie peut-être un petit peu trop facile. Je pense qu'on a de la difficulté comme parents aujourd'hui à être rigoureux. Je pense que des choses qui se faisaient tout naturellement il y a quelques décennies qu'on doit artificiellement fabriquer aujourd'hui.
C'est-à-dire?
L'importance de l'entraide. L'effort. Quand on vit tous sur une ferme, puis qu'il y a des animaux à aller nourrir, puis qu'il y a un train à faire, puis qu'il faut aller pelleter du foin... Puis qu'on est 10 enfants dans la maison, ce qui était la réalité québécoise des dernières décennies, ben, tu n'as pas besoin d'expliquer à ton enfant l'importance du travail. Si le travail n'est pas fait, ça ne fonctionne tout simplement pas.
D'accord.
Aujourd'hui, on a moins d'enfants, on a un paquet de gadgets, de technologies, on a à la limite plus tellement besoin de s'occuper de nos enfants, on peut laisser les écrans faire le travail, on veut être des parents parfaits, on veut impliquer nos enfants dans tout ce qui est sport, hobby, loisirs.
Une facilité?
Je ne veux pas généraliser. Je pense que tous les enfants n'ont pas cette chance-là. Je pense qu'il y a encore des enfants qui sont poussés à devenir la meilleure version d'eux-mêmes par leurs parents, mais on constate, j'ai l'impression, certainement un nivellement par le bas. Et là, je parle de la société au grand complet. Je pense qu'on a de la difficulté à exiger des enfants, puis là, vous me parliez des étudiants, je dirais les enfants et les étudiants, on a de la difficulté à essayer d'élever la barre. On a tendance à l'abaisser pour que tout le monde puisse se sentir assez heureux, assez bien, assez capable de dire « Oh, j'ai sauté par-dessus. »
Comme le bac en France?
écoutez, je pense qu'on a le pendant ici. Plutôt que de demander aux enfants de s'élever au niveau des critères d'études collégiales ou universitaires, on fait l'inverse. Moi, je vois en 20 ans le niveau de mes étudiants baisser année après année. Quand Antidote peut corriger nos fautes d'orthographe à notre place, bien, c'est sûr qu'il y a une faculté de correction qu'on perd.
Alors, il y a une chose qui va vous choquer. L'année dernière, en 2022, au concours IUFM d'instituteurs, professeurs des écoles en France, 70% des candidats qui ont bac plus 5. n'ont pas été capables de donner la définition correcte du mot chancelant. Bon, alors ça fait un peu la une des journaux, et puis après c'est passé à autre chose. Est-ce qu'on n'est pas dans une société, justement, où envahie par... Enfin, moi, je me rappelle quand même d'une époque où, quand j'étais étudiant, il y a 30 ans, fallait aller chercher dans les livres, il fallait aller à la bibliothèque, il fallait... Voilà. Aujourd'hui, c'est vrai que quand on voit la facilité qu'on a d'accès au savoir, aux connaissances, avec l'Internet, etc., je suis surpris, effectivement, qu'il y ait... Finalement, alors qu'on n'a jamais eu une information, une connaissance aussi accessible, que finalement, on n'y accède plus parce qu'on est préoccupé par autre chose, divertissement.
Mais je pense qu'on revient au divertissement. Puis moi, j'aspire, je ne peux pas parler pour la société au complet. Puis ça, bon, personnellement, à ce niveau-là, je fais mon travail d'enseignant, je fais mon travail de pédagogue. J'essaie que dans ma classe, la barre ne soit jamais abaissée, mais constamment surélevée. Mais des fois, je suis inquiet. J'espère avoir été un parent assez exigeant. Mais la chanson des trois accords, moi, l'Université de Sherbrooke, c'est aussi mes enfants parce que je suis particulièrement attaché à cette institution. Pour une première raison, ben, je ne suis jamais parti de l'université. Dans la même semaine, je troquais mon matricule étudiant pour un matricule employé. Je devenais chargé de cours ici à la faculté de droit la même semaine où je faisais ma soutenance de mémoire en philosophie. Puis deuxième raison, mais j'ai rencontré Josée, la mère de mes enfants. On n'est plus ensemble aujourd'hui, mais on est encore très, 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 très proches. J'ai la plus belle famille reconstituée du monde. Mm-hmm. C'est quelque chose dont je suis immensément fier. Puis je lui envoie des fleurs aujourd'hui parce que elle et tous les gens autour ont contribué à ce que ça soit possible. Donc, il y a un petit peu de l'Université de Sherbrooke dans mes enfants parce que on s'est rencontrés à la première semaine de mon arrivée ici au bac. Puis, cette chanson-là, des trois accords, mais de la même manière, j'ai essayé, en tout cas, je pense que mon amour de la musique, c'est un peu contaminé mes enfants. Puis, notre groupe à la famille, c'est Arcade Fire. C'est un groupe montréalais absolument extraordinaire. Mais là, on devait trouver des chansons en français. Donc, j'ai demandé aux enfants,
c'était la petite
qu'est-ce qu'on fait? Et là, j'ai suggéré deux, trois trucs. Et c'est Bamboula des trois accords qui a recueilli la très, très grande majorité. Donc, pour mon garçon, Élie, qui a 21 ans, qui va commencer une formation en charpenterie-menuiserie.
Ça a été un choix collectif, alors, cette chanson?
Oui, c'est un choix collectif. Donc, les trois enfants, mon garçon Élie, ma fille Charlie, qui commence un bac ici en marketing, communication, puis mon plus jeune Noah, qui, lui, s'en va en cuisine, qui vient de commencer sa formation en cuisine. Alors, trois enfants dont je suis très fier. Je leur pousse constamment dans le derrière. Ça, je pense qu'ils seraient capables de me donner ça. Et j'aspire à ça. Je pense qu'on doit avoir une belle relation avec nos enfants, mais en même temps, on n'est pas juste des amis, on est aussi des parents. Donc, j'espère...
Est-ce qu'il n'y a pas une confusion aujourd'hui dans la société un peu, justement?
Je pense que oui. Je pense qu'on a plus de difficultés à jouer le rôle de... Pas du policier, mais certainement de se dire, ben là, si t'es pas content après moi, c'est pas grave, je m'en fous. Je pense que c'est ce que tu dois faire et fais-le, parce que si t'apprends pas à obéir à l'autorité ou si t'apprends pas à te discipliner, quand moi je te demande d'être discipliné, ben quand la vie...
va le faire, ça sera autre chose.
Ah, c'est ça. Quand, à un moment donné dans la vie, il va falloir que tu apprennes à te discipliner par toi-même. Et si les parents n'ont pas été là dans un premier temps pour nous forcer à travailler quand ça ne nous tentait pas de travailler ou à faire des choses justement qu'on n'avait pas envie de faire, ben ça va probablement être un problème.
Est-ce que c'est justement peut-être ça, l'espoir, justement? C'est peut-être justement quand ils vont se retrouver confrontés à une certaine réalité, pour ceux qui sont un peu en désœuvrement, si on peut dire.
Je pense.
Ça qui va les remettre dans les rails?
L'exemple que je donne à mes étudiants, c'est le suivant. Mes parents font partie de la génération qui recevait des oranges à Noël parce que c'était rare, il n'y avait pas ça, ça venait de la Floride. Moi, j'ai été excessivement gâté, j'ai eu des jouets, j'ai eu tout ce que je voulais, mes enfants en ont trop eu.
Trop, c'est-à-dire?
Bref, matériellement parlant, à un moment donné, il a fallu dire à notre entourage, parce que là, avec les grands-parents, les oncles, les tantes, enfants avaient tellement de cadeaux qu'ils en déballaient un à Noël, puis après ça, c'était l'autre.
Ça perd la valeur des choses.
Ben exactement, on perd la valeur des choses. L'espoir réside dans le fait qu'on va avoir vécu avec cette société d'hyperconsommation le fait d'avoir tous été un petit roi, une petite reine.
Mmh. Mais est-ce qu'il ne va pas y avoir une limite à un moment?
Ben oui, mais je pense que c'est ça. On va réaliser ultimement, on a tout ce dont on a besoin, puis paradoxalement, on est dépressif, on est anxieux, on est malheureux. Il y a un signe là que les gens ne comprennent pas, mais quand on comprend les grands enseignements de la philosophie, on comprend que le plaisir, le bonheur ne viennent pas avec la facilité, ne viennent pas avec le confort, ne viennent certainement pas avec l'accumulation de biens matériels.
Est-ce que c'est pas regrettable que la philosophie ne soit pas enseignée plus précocement, dès le secondaire, et de manière plus large justement, qu'elle soit finalement un peu le parent pauvre, alors que finalement elle est quand même... Enfin, elle est quand même importante dans la conception de l'esprit critique, de la formation du citoyen.
Je suis un peu ambivalent quand on me pose cette question-là parce que je pense qu'il y a, un temps pour enseigner l'esprit critique. Puis je suis pas certain que si on commençait plus jeune, on aurait de meilleurs résultats. Mais j'ai des collègues qui s'intéressent à cet aspect-là de la philo pour les enfants. Personnellement, je plaide l'ignorance ici. Je ne connais pas les résultats. Je ne sais pas ce que concrètement ça donnerait. Mais je pense qu'on pourrait certainement mieux valoriser la philosophie que ce qu'on fait. Moi, je dis à mes étudiants que j'enseigne l'autodéfense intellectuelle. Fait que on peut te manipuler en utilisant des stratagèmes, en faisant de la propagande. Puis ça veut dire qu'on va t'amener à faire des choses que tu ne souhaites pas nécessairement faire. Puis on va t'amener à cautionner des politiques qui ne servent pas ton intérêt. Dans la mesure où tu as compris ça, tu as tout intérêt à être conscient que l'autodéfense intellectuelle, c'est absolument fondamental. Je ne sais pas si on peut commencer plus tôt, si on commençait plus tôt, qu'est-ce que ça donnerait, mais je pense qu'on devrait très clairement, collectivement, comprendre l'importance de ça. Mais celles et ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, qui sont certainement pas...
N'y ont pas intérêt?
Ben non, clairement pas. Si on pense que c'est Justin Trudeau qui décide pour ce qui se passe au Canada ou François Legault qui décide pour ce qui se passe au Québec, on comprend la moitié de la réalité. Là.
Du pain et des jeux?
Ben clairement.
On en est revenu là?
Malheureusement, puis imaginez-le, avant les jeux, ça prenait tout un cirque pour les organiser parce que ça prenait des gladiateurs, ça prenait...
C'est accessible avec ces petites choses-là.
On le traîne dans nos poches quotidiennement.
Est-ce que finalement, il va falloir que Tocqueville, Locke reviennent un peu à la page? Ben, il y a de l'espoir?
Ils sont toujours à la page. Il faudrait juste qu'on ait une application sur nos téléphones pour découvrir à quel point ils sont importants.
Alors, on va écouter donc les trois accords de Bamboula.
Salut les Mayouski.
Et voilà, ça va venir. Désolé. We'll be right back.
la nuit. Et puis soudain, comme un besoin de ne plus rien remettre à demain.
Et en plus, ça swing bien. Hein, ça, non, c'est vrai, c'est sympa. Bamboula. Alors, c'est québécois, Bamboula?
Ben, je pense que la Bamboula, c'est une fête africaine, mais
oui,
trois accords, c'est un groupe québécois.
Mais voilà, bon, après tout, l'Amérique, c'est aussi une terre de mélange,
oui,
de
clairement.
Métissage, de rencontres. Ce, ouais. Ce qui est aussi une des richesses, d'ailleurs, cette université.
Claire.
C'est aussi de pouvoir être ouverte sur le monde et d'y apporter justement aussi cette part aussi de rencontre et de, voilà, peut-être de cette part de rencontre naîtront aussi peut-être des visions du monde meilleures pour l'avenir, mais ça c'est une autre histoire. Alors tu as choisi et vous avez choisi pardon une autre chanson également qui est la chanson de Trio, hop, que je la retrouve, Serre-moi.
Alors oui.
Je l'ai écoutée, cette chanson, j'ai trouvé très tendre, très belle.
Ben, c'est pour ma femme.
Ah,
c'est
voilà.
Pour mon épouse.
Alors parlez-moi d'elle.
Ah, mais c'est une femme extraordinaire, magnifique, déterminée, acharnée. Je l'ai rencontrée il y a maintenant 15 ans, on s'est mariés cet été. Et puis c'est ma deuxième moitié. Je pense qu'aujourd'hui on a la chance avec l'ouverture qu'on a par rapport au mariage. J'ai eu plusieurs femmes dans ma vie, ma mère en premier, ma grand-mère qui est décédée quelques années en deuxième, la mère de mes enfants, c'est la mère de mes enfants, et ça changera jamais. Puis on est encore, comme j'ai dit, très très amis, très proches. La femme avec qui je suis aujourd'hui, c'est la femme avec qui je veux finir ma vie. C'est une femme absolument extraordinaire. Puis cette chanson-là, elle témoigne de nos débuts qui n'ont pas été nécessairement simples. Mais je pense qu'il y a ça dans l'art, dans la musique particulièrement. Des fois, un artiste va tellement en profondeur que cette profondeur-là finit par atteindre à l'universel. Des œuvres... les plus géniales sont souvent celles dans lesquelles on se reconnaît tous d'une certaine
c'est
manière.
Vrai, c'est vrai.
Et cette chanson, de ce que j'en comprends, parle d'un amour impossible. Et c'était un peu ça le début de notre histoire. Puis là, comme je l'ai dit, on vient tout juste de se marier. Une célébration vraiment extraordinaire. Ça a été encore une fois... la fête me détermine. Les deux chansons précédentes référaient un peu à ça, à la fois avec mes enfants puis avec mes amis. Je pense que... on aime vivre, on aime bien vivre, et ma femme me permet de faire ça. C'est quelqu'un avec qui je partage des passions. On vient de s'acheter un petit terrain à la Patrie, en campagne, et puis de la voir travailler, ramasser, brûler des branches avec moi, de la voir qu'elle a son petit côté très, très, très... féminine, soignée, mais que quand vient le temps de sortir une souche du fond des bois, les ongles peuvent bien se briser, il n'y a pas de problème. Le maquillage reste à Sherbrooke, puis le fer plat aussi. Donc, elle est parfaite.
Est-ce que vous pouvez dire que vous êtes un optimiste?
En amour ou dans la vie en général?
De la vie, parce que finalement, vous parlez de l'amour, des enfants, de la famille, des amis, et je sens... une profonde croyance dans l'avenir. Une foi dans l'avenir, presque.
Mais la vie, elle est faite pour être expérimentée, puis elle est faite pour donner des leçons. Donc, autant les expériences tristes, difficiles, sont une occasion de s'élever soi-même. C'est peut-être Nietzsche là, que je viens de paraphraser encore une fois. Donc, que le meilleur ou le pire m'arrive, évidemment, puis je ne suis pas toujours optimiste, je ne suis pas toujours jovialiste. ma conjointe pourrait justement vous dire que dernièrement, il y a des choses qui sont produites qui m'ont rendu plutôt pessimiste. Elle était là pour me rassurer, mais je pense qu'en général, je suis, oui, quelqu'un de très optimiste pour ces raisons-là.
Pourtant, quand on voit la société, vous, et quelque part, vous l'avez un peu effleuré, quand on voit aujourd'hui un peu les questions qu'on se pose sur l'avenir de la société, par rapport à la jeunesse, par rapport au pain et au jeu, par rapport à toutes ces choses-là, est-ce qu'il y a encore des raisons d'être optimiste, peut-être ici, au Québec, plus que chez nous, en Europe, ou malheureusement...
Là, je vais me permettre d'aller dans la littérature cette fois-là. C'est dans toute la grande symbolique du Seigneur des Anneaux de Tolkien. C'est au moment où la nuit est la plus sombre qu'on est le plus près de l'aube. Donc, il faut vivre ces moments-là, je pense, collectivement, pour découvrir autre chose.
Justement, est-ce que par rapport à l'effondrement de l'Europe, justement, c'est pas quelque chose qui va aider à ce que l'Amérique, dans son sens plus large possible du terme, en prenne leçon pour éviter de finir pareil?
Le Québec.
Le Québec, plus particulièrement.
Oui, parce on est clairement, à mon avis, une société distincte du reste de l'Amérique, du Canada anglais et des États-Unis. Il y a, ne serait-ce que par le fait qu'on est un petit peuple francophone. Mais en tout cas, c'est sûr que moi, à 46 ans, j'ai vécu l'époque référendaire au Québec. La première fois que j'ai voté, c'est au référendum de 1995. Donc, j'avais 18 ans et j'ai voté pour que le Québec devienne un pays. C'est une question qui n'est plus tellement à l'ordre du jour, mais... Les années 60 au Québec, c'est les années de maître chez nous. C'est la Révolution tranquille, c'est la création du ministère de l'Éducation, c'est la création de la Caisse de dépôt et de placement, c'est la nationalisation de l'hydroélectricité. Il y a un État-providence fort au Québec qui, je pense, va pour quelques années encore influencer les Québécoises et les Québécois. Mais si on n'est pas attentif, ça se pourrait très bien que cette mémoire-là finisse par se dissoudre et que... on devienne un peuple en Amérique comme tous les autres. J'ai encore l'impression qu'on est une société distincte.
Quelqu'un m'a dit récemment j'avais eu la chance d'arriver j'arrivais au bon moment ici parce que pour lui, il y avait eu pendant des années, de très longues années, une espèce de torpeur, d'endormissement, de relâchement, d'affaiblissement moral et une sorte de dépression collective, si on peut dire. Et puis que depuis quelques années, justement, il y a, au contraire, ça ressurgit, il y a une envie de nouveau d'indépendance, de souveraineté, d'émancipation, à la fois culturelle, politique, dans tous les sens du terme. Est-ce que vous le ressentez?
Non.
Non, vous ne le ressentez pas?
Non. Non, je le ressens pas. Je pense que, au contraire, moi, je vois des étudiants francophones se parler entre eux en anglais lors des pauses, quand il y a des cours. C'est pas tout le monde qui fait ça, mais je pense que... La culture québécoise, qui est entre autres empreinte dans le choix des chansons, même si j'ai choisi deux chansons françaises, il y avait une raison, mais j'aurais pu vous faire un étalage de chansons québécoises tellement vaste parce que culturellement, ça faisait partie de mon identité, puis ça fait partie de l'identité de mes parents. L'identité de mes enfants aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux, c'est TikTok, c'est Netflix, c'est Instagram.
Dominé par l'anglo-saxon.
Oui.
Culture anglo-saxonne. Ouais. Mais en même temps, il y a une jeune scène québécoise qui émerge. On voit des gens comme Roxane Bruno, des gens comme ça qui apportent un vent nouveau, justement, et en français en plus.
Peut-être que c'est moi qui n'ai pas suffisamment familier avec cette scène-là. Je connais Roxane Bruno, mais moins sa musique. Mais j'ai l'impression que la diversité est moins importante qu'elle l'a déjà été. Ou peut-être que c'est tout simplement l'importance qu'on accorde au pop puis au hip-hop, qui sont des styles musicaux qui viennent un peu moins me chercher, qui font que je connecte moins, mais l'aspiration à l'indépendance du Québec, là, faut pas se rappeler qu'au Parti québécois, on est 3 députés, on vient d'en élire un 4e. Là. Québec solidaire se considère comme un...
Une belle victoire, apparemment.
Ben oui, c'est une belle victoire, mais c'est une victoire qui est un vote de contestation contre l'abandon du projet du 3e lien, en ce qui me concerne. Je pense que le PQ a peut-être quelque chose à proposer. Je pense qu'il peut renaître de ses cendres, mais il va falloir qu'il fasse autrement que ce qu'il a fait dans les dernières années.
Pourtant, on sent que l'idée souverainiste est un peu en train de renaître. Si j'ai bien suivi l'actualité, même le Parti libéral québécois, tout d'un coup, se découvrirait une sensibilité souverainiste.
Il n'y a juste plus le choix. Le Parti libéral a été mis échec et mat parce que la coalition Avenir Québec a décidé de jouer la carte de l'autonomie sans jouer la carte de l'indépendance. Le Parti libéral du Québec se faisait élire et réélire parce qu'il disait « référendum ». Et là, ça suffisait pour que tous les gens qui n'étaient pas certains de vouloir faire l'indépendance votent pour le Parti libéral, parce que l'autre option, c'était le Parti québécois. Mm-hmm. On a été dans cette espèce de dualisme politique au Québec pendant des années, ce qui a permis d'avoir un gouvernement libéral de 2003 à 2012, puis de 2014 à 2018, qui ont été les grands instigateurs du saccage de nos services publics, puis d'une politique d'austérité. Et ça, c'est tout simplement parce que les gens avaient peur de l'indépendance du Québec. Donc, est-ce que ce serait... Il y aurait une renaissance de ça dans les dernières années? Personnellement, moi, peut-être que certains de mes collègues penseraient le contraire, là. Moi, je pense que non.
Pessimiste, là, tout d'un coup.
Non, l'indépendance va pas nécessairement de pair avec le fait qu'on fasse du Québec un pays. Je pense que cette question-là, on y a répondu à la négative deux fois. Puis avec les gens qui arrivent, il y avait une réelle raison d'être en colère contre les anglophones il y a 30 ans. Aujourd'hui, cette raison-là n'existe plus.
Pourquoi?
Parce que l'indépendance est ailleurs, parce que les Québécois et les Québécoises se sont émancipés, parce que les propriétaires d'entreprises ne sont pas que des anglophones, parce que les francophones ne se sont pas fait mépriser par les anglophones. C'est pas l'expérience que mes enfants ont vécue.
Mm-hmm.
Et donc, l'indépendance...
Il y aurait une forme d'intégration canadienne, finalement, qui se fait?
Ben, pas tant une forme d'intégration canadienne qu'une forme de disparition de l'identité québécoise telle que moi, je l'ai déjà connue.
D'accord. Oui, ce qui serait plus...
Ça ne reste que mon opinion et j'espère me tromper, mais je pense que si le Parti québécois voulait jouer une vraie carte, il parlerait d'indépendance sans parler de souveraineté.
D'accord.
L'indépendance par rapport aux multinationales.
Mmh.
L'indépendance par rapport aux compagnies pharmaceutiques. L'indépendance par rapport aux compagnies pétrolières. L'indépendance par rapport à... Tout ça sont des enjeux complètement fondamentaux qui sont occultés par notre manière de faire de la politique. Parce que je ne suis pas certain qu'aujourd'hui, si on est un Québec indépendant, souverain, dans un monde néolibéral, on y gagne quoi?
En tout cas, il faudra une économie solide et qui a les reins solides pour assumer le coût de cette indépendance.
Ah, ça, je pense que je ne suis pas certain que ce soit vraiment ça le problème. Je pense que l'argument de l'économie, c'est un argument de peur qui a été utilisé par le fédéral pendant très longtemps. Partir de chez ses parents pour vivre en appartement puis être autonome, ça a un coût économique, effectivement. Là, je fais une analogie qui est peut-être un peu boiteuse, mais ça prend un risque. Je suis pas sûr aujourd'hui qu'on serait prêt à vivre ce risque-là si en 80 puis en 95, on n'était pas prêt à le prendre. Personnellement, je pense qu'il y aurait probablement beaucoup d'avantages économiques à le faire.
Est-ce que François Legault a raison d'investir justement dans les énergies vertes, l'hydroélectrique, etc.?
Non.
Justement, source.
Non. L'hydroélectricité, je vais référer les auditeurs à un documentaire qui s'intitule « Chercher le courant, les barrages, c'est d'une autre époque ». Les meilleures rivières au Québec ont déjà été harnachées. Le kilowattheure était pas cher à produire. Il est maintenant beaucoup plus cher parce que les rivières n'ont pas le même potentiel. Et donc, c'est d'inonder des territoires, c'est de créer de la pollution, mais il y a tout un lobby qui tourne autour d'Hydro-Québec. C'est le béton, c'est les mêmes gens d'affaires qui sont partout, qui passent la caisse de dépôt et de placement, qui se ramassent PDG d'Hydro-Québec. Quand on suit l'actualité là, au Québec, là, on se rend compte que c'est une petite gang qui prend les décisions. Puis construire des barrages, c'est certainement pas la voie de l'avenir.
Du nucléaire?
Je pense qu'on est capable de miser sur la sobriété avant.
Sobriété?
Sobriété énergétique.
Alors ça, on nous a fait le coup en Europe. Ça n'a pas été très efficace.
il faut accepter qu'on va vivre de manière moins confortable et qu'on ne peut pas vivre dans une spirale de croissance infinie. Et qu'on doit peut-être commencer à se poser la question sur comment on peut être autonome, comment on peut avoir une économie viable avec une population qui arrête d'être en constante explosion. Je pense que c'est des questions qu'on doit commencer à se poser.
Oui, c'est des questions importantes, c'est vrai. En Europe, c'est vrai que c'est ce qu'on a fait depuis 30 ans. Ça n'a pas forcément été très efficace.
On peut réussir des choses ici qu'on ne peut pas
réussir en
Europe. Un bilan qui n'est
pas très bon, il faut l'admettre. Belle chanson d'amour, Trio, Serre-moi.
Dessus bord, viens mon ange, retracer le ciel. J'irai crucifier ton corps, pourrais-je tes punaises et tes ailes, embrasser, te mordre en même temps, enfoncer mes ongles dans ton dos brûlant, te supplier de me revenir et tout faire au tout pour te voir partir. Et viens, emmène-moi là-bas, donne-moi la main que je ne la prenne pas, écorche mes ailes, envole-moi et laisse-toi tranquille à la fois. Mille fois entrelaçons-nous et lassons-nous même en dessous. Serre-moi encore, serre-moi jusqu'à étouffer de toi. Il y a des salauds qui pillent le cœur des femmes et des femmes qui ne savent plus trop d'où l'amour tire son charme. Papillons de fleur en fleur, d'amour en amour, de cœur. Ceux qui n'ont qu'une étoile ou ceux qui brûlent leur voile. J'aime tes larmes quand tu aimes, la sueur, le sang, rendons-nous amants, qui se passionnent, qui se saignent. J'aime quand mon écorché est vivant. Je ne donne pas long feu à nos tragédies, à nos adieux. Reviens-moi, reviens-moi, tu partiras mieux comme ça. À force de se tordre, on en finirait par se mordre. À quoi bon se reconstruire quand on est adepte du pire? Malgré nous, à quoi bon se sentir plus grand que nous? Deux grains de folie dans le vent, deux âmes brûlantes, deux enfants. Des salauds qui pillent le cœur des femmes et des femmes qui ne savent plus trop d'où l'amour tire son charme. Des papillons de fleurs en fleurs, d'amour en amour, de cœur. Ceux qui n'ont qu'une étoile ou ceux qui brûlent leur voile. Tracer le ciel, j'irai crucifier ton corps, pourrais-je tes punaises et tes ailes embrasser, te mordre en même temps, enfoncer mes ongles dans ton dos brûlant, te supplier de me revenir et tout faire pour te voir partir. Viens, emmène-moi là-bas, donne-moi la main que je ne la prenne pas, écorche mes ailes, envole-moi et laisse-toi tranquille à la fois. Mille fois entrelaçons-nous et lassons-nous même en dessous. Serre-moi encore, serre-moi jusqu'à étouffer de toi. Serre-moi encore, serre-moi jusqu'à étouffer de toi.
C'est une magnifique chanson, vraiment superbe, et qui vraiment parle vraiment de manière très belle d'amour. Alors moi, j'ai trouvé que vous avez, ce soir, vous avez beaucoup parlé d'amour.
Et de
l'amour de la famille, l'amour des amis, l'amour des enfants, l'amour de votre épouse que vous avez. Et là, je ne sais pas ce qui vient de se passer, mais tous les écrans se sont éteints.
Je pense qu'on approche de la fin.
Non, je crois que c'était un bug. C'est revenu. Je n'ai rien touché. Vous êtes témoin. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, voilà. Mais bon, tout est revenu, donc tout va bien. Voilà. Ça fait un petit peu bizarre quand on voit tous les écrans s'éteindre. On dépend trop de ces choses-là, finalement.
Un petit peu, mais...
Vous avez raison. Hein. Moi, j'ai aimé vos propos d'amour. Alors, c'est marrant parce que finalement, vous êtes professeur de droit. On n'a pas parlé beaucoup de droit, finalement. On a parlé de beaucoup d'amour, de sentiments, etc. Alors ça, c'est quand même intéressant. Et c'est le mérite de cette émission, c'est de nous faire découvrir, derrière le professeur de droit, l'homme de cœur.
Mmh.
Est-ce que vous décririez comme ça, un homme de cœur, finalement, de passion, de sentiments, de...
Ce serait un beau compliment à me faire, en tout cas. Je pense que si quelqu'un me dit que je suis un homme de cœur et qu'il le pense vraiment, je dirais merci avec beaucoup de gratitude, mais... le droit reste que c'est ultimement le moyen de construire une société plus juste. On a effleuré John Locke tout à l'heure. John Locke, ouais, dans le chapitre 1 du traité du gouvernement civil, dit que le pouvoir politique doit s'exercer au nom du bien commun, par opposition aux prérogatives de la monarchie, de droit divin et de la noblesse. Donc, à la base, le droit, l'état de droit existe pour servir l'ensemble de la population.
Là où finit le droit, commence la tyrannie, disait-il aussi.
Mais bien sûr.
Donc, pour faire du droit, il faut être un homme de cœur.
Non. Pas nécessairement, parce que le droit n'est pas toujours cohérent avec l'idéal de justice et le bien commun. Je pense qu'aujourd'hui, on peut se servir du droit pour agir de manière tyrannique.
C'est vrai aussi, on l'a malheureusement constaté au cours de ces dernières années, effectivement. Voilà, alors c'était en tout cas une très belle émission. J'ai été très heureux de vous accueillir ici et vraiment, vous m'avez épaté avec vos chansons et puis tout ce que vous avez dit. J'ai trouvé que c'est beaucoup d'empathie, beaucoup d'humanité dans ce que vous avez dit.
C'est tout à fait réciproque. Merci pour l'invitation. Puis ça m'a fait grand plaisir de venir faire un petit clin d'œil aux gens que j'aime.
Eh bien, je pense qu'ils ont dû en être très émus également. Eh bien, écoutez, on va se quitter pour cette émission. On se retrouve lundi prochain, comme d'habitude, sur CFAQ, la radio incontournable du paysage radiophonique québécois. Et pour vous quitter ce soir, je ne vais pas vous mettre la petite chanson habituelle de Fabienne Thibault. Je vais vous en mettre une autre un peu plus personnelle et qui s'adressera à quelqu'un qui certainement l'entendra en podcast et le message sera parfaitement passé. C'est une chanson d'un excellent chanteur québécois très connu du New Brunswick mais francophone.
Ne viens pas réveiller ma mémoire, dire que tout se répare, qu'il faut savoir pardonner. Ne viens pas faire basculer ma vie, toi qui l'as affaibli, son cœur est sans merci. Ne viens pas si tu n'as pas choisi. S'il reste à du silence encore un peu de lui. Ne viens pas si c'est pour t'endormir en essayant à chaque nuit de repartir. Ne viens pas remuer ciel et terre, j'irai qu'il t'indiffère. Si tu n'es pas sûr de toi, ne viens pas ou tu vas me tuer.